France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Sacha Mattei, Anouk Miliot et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Le Cuivre, à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. Sixième volet de notre série de 8 sur les grandes mobilisations partout dans le monde contre les inégalités, la confiscation des richesses par une poignée de personnes et pour davantage de justice sociale, aujourd'hui aux Philippines.
Toutes les couches de la société sont venues manifester, notamment les classes populaires. On dénonce la corruption.
Les officiels corrompus et les députés vivent dans le luxe. Ils ont de grosses voitures et des villas gigantesques grâce à l'argent qu'ils nous ont volé. Et pendant ce temps, nous, les pauvres Philippins, on doit subir les typhons, les inondations, les évacuations et les maladies que ça entraîne. Les gens ont du mal à survivre.
But to show that you are enraged,
vous avez le droit de montrer que vous êtes enragé, de montrer que vous êtes en colère, de montrer que vous êtes déçu, de montrer que vous voulez la justice, de montrer que vous voulez de l'équité. Il n'y a rien de mal à cela. Moi, je veux vous montrer qu'il y a de la justice. Je veux vous montrer qu'il y a de l'équité. Je veux tenir ces personnes responsables. Donc je ne blâme pas les manifestants.
Aux Philippines, les typhons ont le pouvoir de jeter les mers dans la démence, de faire sombrer les navires, de déraciner les arbres, de précipiter les oiseaux contre le sol. Ils ont même le pouvoir d'arracher des mots de compassion au président en place. Quand Ferdinand Marcos Jr. dit aux Philippins qu'ils ont le droit de montrer qu'ils sont en colère et de demander justice, ce n'est pas contre le ciel et ce qu'ils charrient, mais contre les détournements des fonds dédiés aux infrastructures censées les protéger. Le 21 septembre dernier, des milliers de personnes se rassemblaient pour protester contre le Floodgate, ou scandale des inondations, tous ces projets fantômes qui n'ont jamais vu le jour et qui ont exposé les Philippins aux intempéries encore en juillet dernier. 70% des fonds alloués aux digues et autres systèmes de protection ont été détournés depuis 2023 à hauteur de 2 milliards de dollars selon le gouvernement philippin, 15 milliards selon les ONG. Bonjour David Cameroun.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur franco-australien, membre du CERI à Sciences Po où vous êtes enseignant et vous êtes spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Bonjour Juliette Louèche.
Bonjour.
Bienvenue à vous dans Culture Monde. Vous êtes chercheuse associée au Centre Asie de l'IFRI. Vous publiez par ailleurs une lettre d'information politique et internationale sur l'Asie du Sud-Est, Durian Stories. Alors Juliette Louèche, la vie politique philippine nous est moins familière que celle d'autres pays concernés par ces grandes mobilisations en quête de justice. Peut-être faut-il commencer par ce qui a déclenché la colère des Philippins. Cette corruption autour de projets d'infrastructures censés protéger leur vie, puisqu'il s'agit d'infrastructures anti-inondations. Juliette Louèche, est-ce que ça se voit, la corruption dans ce type du projet, comme si la corruption était elle-même coulée dans le béton ?
Oui, alors ça se voit, ou plutôt ça ne se voit pas. Et là, je parle des projets parce que, donc vous l'avez cité en introduction, ces projets sont soit mal réalisés, soit pour la plupart pas réalisés du tout. Et en fait, c'est la découverte de la découverte vraiment, puisque les Philippins constatent sur le terrain que les infrastructures ne sont pas présentes, mais plutôt la mise en évidence par le politique lui-même, par le président philippin lui-même, de la non-réalisation de ces projets qui a déclenché non seulement l'attention politique, mais aussi la colère des Philippins qui jusqu'à présent existaient. Mais n'était pas mobilisable ou ne pouvait ne n'était pas ne, comment restreinte au local.
De la même façon qu'en Serbie, dont on parlait hier, c'est l'effondrement de la gare de Novi Sad qui a en fait confirmé ce que les Serbes savaient déjà, le niveau de corruption vertiginé dans l'attribution des marchés publics. Et bien, aux Philippines, ce sont les inondations de cet été qui ont convaincu les citoyens que ce n'était plus possible de faire comme si ça n'existait pas. J'insiste pour vous demander si on a en tête des exemples de digues ou d'infrastructures qui devaient apparaître, qui ne sont jamais apparues sur le littoral, ou d'autres qui sont vraiment en mauvaise qualité, qui, un coup de vent, se sont effondrés, sont partis en miettes, ou simplement n'ont pas réussi à protéger les Philippins.
Oui, il y a des exemples. Alors, je ne vais pas vous en citer là tout de suite, mais en tout cas, c'est en cours d'enquête. À la fois par une commission indépendante, mais aussi par le département des infrastructures lui-même. Depuis le début du scandale, début août 2025, il y a un certain nombre de projets qui ont été dénoncés, et surtout liés à des personnalités politiques, soit détentrices de mandats législatifs, exécutifs, donc dans les provinces, et qui peuvent être d'une façon ou d'une autre ramenées au pouvoir qui siège à Manille.
Alors, donc, le point de départ, c'est vraiment ces grandes manifestations, ces grandes mobilisations du 21 septembre parlaient et dénonçaient la corruption, l'argent détourné par plusieurs grandes dynasties politiques concernant l'attribution des marchés pour ces infrastructures-là. Il se trouve que chaque année, les Philippines doivent affronter une vingtaine de typhons et de tempêtes, ou les regarder s'approcher sans savoir ni si ou quand ils frapperont. Le typhon Wifa, cet été, a contribué à révéler ces malfaçons, et encore hier, près de 70 000 personnes ont été évacuées autour de Manille parce qu'un autre typhon arrivait.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quelle vie misérable ! Que les politiciens corrompus aient pitié de nous. On n'en peut plus de toute cette eau. Elle ne part jamais. Alors que les riches au gouvernement... Ils ont la vie facile et nous en souffre. Faites quelque chose pour nous. Franchement, je deviens folle.
Une Philippine victime des inondations de cet été, ici témoignant à un micro de France 24 le 13 octobre. Il se trouve que les inondations de cet été en juillet ont été meurtrières aux Philippines. David Camrou, pardon, vous me dites ? Vous m'avez dit, j'ai pas entendu.
Non.
Oui, vous confirmez. Mais ce n'est que le 21 septembre que le son de la colère s'est fait entendre aux Philippines, la marge des 1000 milliards de pesos. Pourquoi les protestataires ont attendu cette date-là, qui est une date importante dans l'histoire philippine ?
Il y avait quand même des manifestations avant. Ça commence vers le début septembre. Et avec plusieurs groupes, les milieux des affaires aussi se sont mêlés. L'Église avait des manifestations où on priait pour manifester. Le colère est vraiment monté. Pourquoi le 21 septembre? Parce que c'est People Power. C'est la célébration, la commémoration du mouvement qui ont renversé le père du président actuel.
Le 21 septembre, c'est plutôt l'entrée en vigueur de la dictature, enfin en tout cas de la loi martiale en 72 par Ferdinand Marcos.
Mais il y a un lien avec le président actuel qui fait tout pour se distancier de son père. Il veut se montrer, c'est un bon démocrate. Et donc, le discours que vous avez commencé, il était en larmes en disant, si j'étais pas président, je serais pas mis vu le 21 septembre pour manifester contre cette corruption. Quelques chiffres. Selon Transparency International, qui est vraiment l'indice de la corruption, les Philippines se trouvent 114e sur 180 pays. L'argent qui était confisqué, c'est même plus, Greenpeace estime, c'était presque 18 milliards de dollars. Donc, la moitié en 2024, 2025. Donc, ça fait déborder le vase. Et en vrai, avant la manifestation de 21, j'ai regardé une manifestation du 10 septembre à peu près. Il y avait un pancarte avec trois mots. L'argent public, l'ingratitude et respect. Hein? Les choses que le peuple ne sont pas, quand on détourne l'argent public, qu'on a totalement, on s'en fout complètement, justement, du petit peuple, et il n'a absolument pas de respect pour le petit peuple. Et c'est vraiment, la colère montait, mais le 21, c'était un peu l'explosion.
Juliette Louèche, c'est vrai que le 21 septembre, chaque année, il y a aux Philippines de grandes manifestations pour commémorer la... Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette date-là? Je ne sais pas, mais c'est la date anniversaire de la loi martiale imposée par l'ancien dictateur Ferdinand Marcos en 72, ancien dictateur dont le président actuel est le fils. Mais est-ce que cette année en particulier, les mobilisations étaient particulièrement impressionnantes et nombreuses?
Oui, donc cette année, les mobilisations étaient les plus importantes depuis 2013 et ont pu être à ce titre comparées avec la People Power Revolution qu'a cité à l'instant David Camerou. On parle de plus de 100 000 manifestants à Manille et dans plusieurs autres grandes villes du pays. Et on voit bien par ce volume que les manifestations montrent une mobilisation particulière du peuple philippin, une colère qui vraiment, comme l'a dit encore une fois David Camerou, montre que le vase déborde et qui, même si la date choisie est symbolique et pourrait être ramenée aux manifestations plus traditionnelles, entre guillemets, de commémoration de la loi martiale dans le cadre du mouvement Never Forget, qui sont plutôt des commémorations mémorielles, en réalité, le sujet ou ce qui est au cœur de la mobilisation cette année, c'est pas tant la lutte contre la dictature, puisque en fait, bon, il faut bien faire la différence entre les deux régimes. Marcos n'est pas son père. Aujourd'hui, les Philippines ne sont pas une dictature, mais la mobilisation cette année portait sur.
Vraiment sur la corruption.
Une colère, voilà, la corruption, une colère qui était bien plus large que juste la commémoration de la dictature.
Et qu'en effet, colère que Ferdinand Marcos Jr. dit avoir entendu, il l'a répété lors du 32e sommet des dirigeants économiques de la coopération économique Asie-Pacifique, l'APEC, le 30 octobre dernier.
Nous continuons à assainir notre administration publique de la corruption, car seul un gouvernement transparent peut bâtir une économie plus juste. Le 25 octobre dernier, cette administration a renouvelé une promesse qui guide toutes nos actions, protéger tous les biens qui nous sont confiés et les restituer à notre peuple sous la forme de progrès visibles et tangibles, grâce à une gestion rigoureuse des fonds. Les prix baissent, les opportunités se multiplient et les communautés prospèrent. Le ministère des Travaux publics aligne désormais les coûts de ses projets sur les prix réels du marché et les réduit de 50%. Soyons clairs, la qualité de ce que nous construisons ne sera pas compromise. La seule chose qui sera affaiblie, c'est la corruption. C'est la responsabilité que nos citoyens méritent. Elle ne se limitera pas aux travaux publics, mais sera la norme dans l'ensemble du gouvernement.
Le président Ferdinand Marcos Jr., qui par ailleurs avait annoncé lui-même le 11 septembre qu'il crée par décret une commission d'enquête vraiment spécifique pour les infrastructures, c'est-à-dire qu'il a devancé les grandes manifestations du 21 septembre. David Camerou, comment expliquer qu'il ait pris la main sur ce dossier-là avant même qu'on le lui ait demandé d'une certaine façon?
Ferdinand Marcos Jr., il souhaite montrer qu'il n'est pas son père. Qui souhaite montrer que c'est un vrai démocrate, qui est une aura internationale. Donc, ces vestiges de l'ancien régime, il veut se débarrasser. Donc, il crée une commission indépendante, ICI. Le problème, c'est que le peuple n'a pas tellement confiance, bien qu'il a nommé un ancien juge de la Cour suprême, on a plus confiance dans la justice aux Philippines, mais il lutte en contre-courant dans une situation où il est opposé lui-même par sa propre vice-présidente, Sara Duterte, la fille de l'ancien...
De son rival.
Son rival, son ancien président Duterte, qui se trouve actuellement à la haie pour un procès pour crime contre l'humanité à cause de sa guerre contre le drogue.
On en parlera dans le focus, d'ailleurs.
Oui. Mais donc, on est une situation un peu loufoque où le président s'est mis à côté des manifestants contre notre partie de son gouvernement.
C'est vrai qu'il faut bien comprendre cette mobilisation dans le contexte très particulier des Philippines, où ce sont des clans qui dirigent le pays et se succèdent au pouvoir, se prêtent, entre guillemets, de temps en temps un nom pour mieux se faire élire, comme la vice-présidente Sara Duterte, du clan Duterte, historiquement adversaire de celui des Marcos, famille du président. Alors cette colère, contre qui est-elle dirigée au juste, David Camereau? Est-ce qu'elle est dirigée contre le système, entre guillemets, ou contre une certaine partie de la classe politique, un certain clan?
Ben, c'est dirigé un peu contre le système, parce que les deux tiers des membres du Congrès viennent des familles politiques, viennent des dynasties. Ça a toutes ses racines à l'époque coloniale avec les Américains, mais donc, c'est à la fois, les Philippines ont en quelque sorte un pays féodal. C'est le seul pays en Asie du Sud-Est où la richesse est liée à la terre, en fait, d'être propriétaire terrien, c'est une preuve de, en fait, on est riche parce qu'on possède beaucoup de terre. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays asiatiques où la richesse maintenant c'est lié à l'industrie manufacturière ou les services. Et donc c'est à la fois on aime bien ces dynasties, les clans, parce qu'il n'y a pas vraiment de structuration de la vie politique avec les partis politiques, avec les idéologies, avec les programmes. Mais en même temps, on voit toutes les conséquences néfastes d'avoir toujours les mêmes familles et dans les mêmes régions qui contrôlent tout.
Juliette Louèche, l'enquête de la commission mise en place par Ferdinand Marcos Jr. suit son cours. Est-ce que on en a déjà des échos, et est-ce qu'on sait si les deux dynasties dont on parle depuis tout à l'heure, donc qui forment le ticket présidentiel, le président Marcos et la vice-présidente Duterte, est-ce que ces deux clans sont concernés par les affaires de corruption, de ce qu'on en sait jusqu'à présent?
Oui, absolument. Et c'est ça qui rend ce scandale exceptionnel par rapport à d'autres qui ont pu émailler le début de la présidence Marcos, ou par ailleurs la présidence Duterte précédemment. C'est que alors que auparavant une affaire pouvait être utilisée contre un camp, enfin par un camp contre l'autre, cette fois-ci le scandale touche bien l'ensemble de la classe politique, avec à la fois des sénateurs principalement qui sont très proches du clan Duterte, et notamment du père, Rodrigo Duterte, l'ancien président, qui sont directement impliqués, nommés par à la fois la commission d'enquête indépendante et le département de la justice, qui est chargé de l'enquête judiciaire de son côté. De l'autre, on a des très proches de Marcos, et notamment son cousin, Germain, qui était également président de la Chambre haute et qui, pendant un temps, était considéré comme le potentiel héritier du palais, donc juste aparté de droit constitutionnel, le président philippin ne peut pas se représenter, et donc il lui faut, pour continuer sa dynastie ou continuer son programme, en tout cas c'est ça ce que lui va présenter, il lui faut désigner un héritier. Et c'était Martine Romualdez qui, jusqu'à présent, était, sans que ce soit bien sûr explicite, mais en tout cas on le devinait comme tel, était désigné comme cet héritier. Or, Martine Romualdez a été est ciblée par cette enquête et a été, par précaution, entre guillemets, retirée de la vie politique le temps que les choses se calment, ou alors parce que le fait qu'il soit inculpé pourrait venir éclabousser le président.
Le président de la Chambre haute, donc Martine Romualdez, cousin germain de Ferdinand Marcos Jr., que le cousin germain du président soit impliqué dans une affaire de corruption et que ça provoque la colère, c'est une chose, mais que le cousin germain de Ferdinand Marcos Jr. soit président de la Chambre haute, ça n'était pas déjà considéré comme un problème, David Camereau?
Non, et ce qui complique encore la situation, qu'une des opposantes de Marcos, c'est sa propre sœur, Ime, la sénatrice Ime. Ah,
décidément,
Marcos,
ça se fait vraiment faire.
Ah bah non, c'est Hollywood. Hein. Et donc, elle utilise aussi l'occasion pour attaquer son propre frère. Donc, c'est vraiment... les Philippins, ils ont une vue, oui, on a une vie politique très colorée, mais maintenant, on commence à dire, ça suffit. Mm. Parce que, il y a des dégâts, c'est bien amusant, tout ça, mais quand on voit, et c'est ouais, ça qui voilà. Est grave cette fois, c'est la vie des gens qui est en jeu. C'est la vie des gens avec ces inondations, le peuple qui n'est pas protégé, l'État qui ne fait pas son devoir principal, qui est la sécurité de ses citoyens. Alors, ça suffit.
C'est pareil quand deux dirigeants d'entreprises impliquées, c'est un couple, Curly et Sarah Diskaya, ont fait savoir récemment qu'ils ne coopéreraient plus avec la commission d'enquête. Ils ont cru quoi? Que c'était Dallas, que c'était à la carte? Ils ont dit qu'ils avaient le droit de ne pas s'auto-incriminer. C'est original et c'est pratique. Mais en fait, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Il y a un côté hollywoodien dans le sens série télévisée dans la politique philippine, mais là on est dans quelque chose de grave et un président qui essaye de siffler la fin de la partie d'une certaine façon.
On dit souvent aux Philippines que chaque homme politique a son bodywalk, ça veut dire son fief, où il est roi, il est un peu roi chez lui. Et donc il peut faire n'importe quoi, et il fait du bien à son électorat, mais le reste, l'intérêt national, ça n'existe pas.
Et alors, comment expliquer cette situation où la vie politique philippine est dominée par la dynastie? Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que c'est inscrit dans la constitution ou en quelque sorte? Ou ça s'est fait progressivement, presque naturellement, comme disait Juliette Louech, puisque les présidents ne peuvent pas faire de deuxième mandat?
Il faut aller plus loin. Il faut aller à l'époque coloniale, quand les Américains ont acheté les Philippines. Ils ont payé 20 000 dollars à l'époque. Ça fait 720 000 millions de dollars actuellement. Donc, c'est mieux qu'Aldi ou Lidl ou d'autres, au Walmart, comme aux États-Unis. Non, mais donc ils ont acheté aux Espagnols par le traité de Paris. Donc, c'était signé par le traité de Paris, le traité. Mais, contrairement aux colonisateurs britanniques, français et néerlandais en Asie du Sud-Est, qui avaient une priorité, la création d'une administration, d'un État, d'établir un État un peu fort, une administration un peu forte. Les Américains, leur préoccupation, parce que la colonisation n'est pas dans le DNA.
Dans l'ADN.
ADN, pardon. américain.
C'est un anglicisme.
Révolution. Un des livres sur cette époque s'appelle Les colonisateurs sentimentaux. Les Américains, donc, très rapidement, une décennie après 1898, quand ils achetaient les Philippines, ont créé les premières chambres de représentants avec un suffrage très limité. Mais le suffrage était limité à qui? C'était limité aux grands propriétaires terriens, suivant les métissos, donc mélange chinois, philippin, tagalog, etc. etc. Et donc, les dynasties économiques sont devenues les dynasties politiques. Et ça a été perpétué. Il n'avait pas eu, comme en Indonésie, il n'avait pas de révolution, de guerre contre le colonisateur, contre les Américains. Les Philippins ont se trouvé avec les Japonais. Se trouvé avec les Américains contre les Japonais. Donc, c'est un pays qui n'a pas connu de révolution. Voilà. Et donc, le système mis en place à l'époque coloniale se perpétuait.
Et d'un État faible, par ailleurs, aux Philippines, si je comprends bien votre raisonnement, David Camerou. Juliette Louech, il se trouve que vous avez fait votre thèse sur la désinformation politique et l'essor des populismes en Indonésie, mais que vous connaissez très bien, et plus que bien, les Philippines. Quel est le niveau aujourd'hui d'information des Philippins? On parlait du côté un peu paillette de la politique. J'emploie ce mot avec beaucoup de pincettes, hein, de la politique philippine qu'on a du mal à saisir d'ici, et néanmoins la gravité des propos tenus aujourd'hui et des scandales de corruption qui sont en train d'être découverts. Comment les Philippins aujourd'hui s'en informent, eux dont on sait par plusieurs études qu'ils passent 11 heures par jour sur Internet, dont 4 sur les réseaux sociaux. L'information est-elle fiable? Est-ce qu'elle circule vite? Est-ce que la mobilisation s'est faite aussi grâce à ce pouvoir des réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui?
Alors, l'information, elle existe. La preuve, c'est qu'on peut en parler, hein, même si on n'est pas aux Philippines pour observer sur le terrain ce qu'il s'y passe. D'ailleurs, ce serait intéressant de s'y rendre. Mais donc, l'information, elle existe. Il y a une presse qui est plutôt libre aux Philippines, qui fonctionne assez bien, avec des médias pionniers, notamment le média Rapport, que vous connaissez peut-être parce que sa fondatrice, Maria Ressa, a eu le Nobel de la paix il y a quelques années. Et donc, les Philippins ont les moyens d'être informés sur le scandale en cours, sur les enquêtes en cours, Et très certainement, une partie d'entre eux se saisissent de ces informations qui va circuler en ligne. Après, elle circule dans un écosystème informationnel qui est saturé d'informations contradictoires, de désinformations également, à des informations qui... En fait, a commencé à apparaître il y a de ça quelques années, quasiment une décennie maintenant, avec la campagne de Duterte en 2016 pour les présidentielles et qui a fait son grand retour en 2022 pour la nouvelle campagne électorale. Et cette désinformation, elle pollue un petit peu, elle pollue pas qu'un petit peu, elle pollue complètement cet écosystème informationnel, ce qui rend assez difficile finalement d'y voir clair. Malgré tout, avec les enquêtes en cours, il y a quand même une volonté politique qui est partagée, relayée par les médias de transparence sur le scandale. Et c'est là où, quelque part, l'action de Marcos est assez déterminante dans la poursuite dans cette poursuite de justice sociale et certainement dans la mobilisation des Philippins.
David Cameron.
Il faut aussi ajouter le rôle de l'Église catholique et les autres églises qui se comportent un peu comme le gardien moral du pays. Donc il existe des contre-pouvoirs en dehors du Congrès.
Et qui sont les jeunes philippins qui se mobilisent? Est-ce qu'il est notable que ce soit plutôt des jeunes? Et vous êtes venu, David Cameron, avec le drapeau, le Jolly Roger, le Roger dont on parle depuis le début de la semaine, ce drapeau que les manifestants brandissent dans les cortèges qui fait écho au manga One Piece où les héros veulent sauver le monde des injustices, pour le dire très vite. Est-ce que ce drapeau-là, vous l'avez vu aussi aux Philippines? Et le fait que les manifestants soient plutôt des jeunes, est-ce que c'est notable ou est-ce que c'est juste logique, eu égard au contexte démographique des Philippines?
C'est à la fois logique, mais aussi symbolique, parce que ce qui est commun avec tous ces mouvements de jeunes, c'est une jeunesse qui est de mieux en mieux éduquée, mais qui se trouve confrontée très vite à des barrières, qui ne peut pas monter. Alors, aux Philippines, ils ont la possibilité de partir d'étranger. 10% de la population des Philippines habite à l'étranger. C'est ça qui est la différence avec, par exemple, l'Indonésie, cette possibilité de fuite vers l'étranger. Mais en même temps, ils sont mieux éduqués, ils sont mieux informés. Et donc, ce qui était acceptable pour leurs parents, d'espèce de système patrimonial, n'est pas du tout acceptable pour la jeunesse.
Vous parlez de cet échappatoire, considéré en tout cas comme tel par certains de l'immigration, puisqu'au moins 10% des Philippins vivent à l'étranger, que ce soit les nounous, les femmes de ménage, le million d'ouvriers du bâtiment qui travaillent en Arabie Saoudite. Comment ?
Les infirmières.
Les infirmières, bien sûr, aussi. On avait parlé dans une émission précédente dans Culture Monde, à l'aéroport de Manille, tous les jours, ce sont des centaines de femmes qui partent pour l'Asie du Sud-Est, pour le Moyen-Orient ou pour l'Europe. Mais tous les jours, des cercueils font le chemin inverse. Les corps de femmes, souvent jeunes, mortes pour beaucoup de mauvais traitements. Ces femmes encore vivantes et ces femmes déjà mortes, qui se sont pendant longtemps croisées, à tel point que le pouvoir philippin a dû faire des travaux sur le tarmac de l'aéroport pour éviter ce balai morbide et décourageant. Est-ce qu'aujourd'hui, les manifestants philippins disent qu'ils ne veulent plus de ce qui fut peut-être pour leurs parents une échappatoire, ils n'en veulent plus, ils veulent rester aux Philippines et simplement vivre mieux.
Oui, grâce à Xi Jinping, avec tous les...
Pourquoi grâce à Xi Jinping?
Parce que les Philippines est constamment, il y a constamment des incidents dans les mers avoisinantes, les Philippines, le mer de Philippines ou la mer de Chine du Sud. Et donc, Xi Jinping, en fait, la réaction des Chinois, en fait, provoque une contre-réaction qui est la montée du nationalisme philippin. Donc, oui, effectivement, cette jeunesse, il souhaite rester.
Hein. Mais ce n'est pas forcément du nationalisme, c'est vouloir rester chez soi, sur la terre de ses parents.
Oui, oui, mais aussi, c'est un sentiment, en fait, et Marcos a bien manipulé un peu ça, c'est un sentiment que... Maintenant que les Philippines, c'est un grand pays, il faut qu'on assume notre place. Et je crois que c'est un message qui passe avec la jeunesse.
Faites voir d'ailleurs ce drapeau One Piece là. Est-ce que c'est du synthétique? Ça serait presque amusant que ce soit du made in China, mais c'est pas précisé, parce qu'on n'en a pas vu, en tout cas, à Pékin ou à Shanghai, des drapeaux comme ça, de One Piece. Quelle poche aux Philippines, Juliette Louèche, est-ce qu'il y a des sortes de poches de résistance dans la société civile qui, aujourd'hui, contribuent à structurer un peu un mouvement social?
Eh bien, déjà, je pense qu'on peut dire que la société civile est assez active aux Philippines. Elle est structurée autour de grandes associations, grandes ONG, alors qui chacune défendent des thématiques bien précises ou promeuvent des thématiques bien précises, que ce soit le droit des femmes, le droit des minorités de genre, les communautés urbaines paupérisées, ou alors qui vont travailler plus sur le terrain sur des questions de lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences. Société civile, elle contribue à mailler le territoire, à quadriller le territoire, et donc elle est une bonne base pour la mobilisation des Philippins. Il y a aussi l'Église catholique qui a été mentionnée par David Camerou, qui est aussi un vecteur de revendications pour plus de justice sociale et qui n'hésite pas à s'ériger parfois en contre-pouvoir et à permettre à travers ces paroisses la mobilisation des Philippins.
Et quant à l'opposition, est-ce qu'on est dans une situation comparable à celle de l'Indonésie dont on parlait la semaine dernière, avec une opposition au Parlement qui n'est que de façade, puisque quand il s'agit de préserver les intérêts de la classe dirigeante, pour le dire vite, tous les députés parlent d'une seule voix, où il y a aux Philippines une véritable opposition et qui regarde avec sans forcément récupérer la mobilisation de la société civile, mais au moins être à l'écoute de ce qui est en train d'être dit.
Alors je ferai la différence entre l'opposition et la résistance. Parce que l'opposition, elle existe. Aujourd'hui, elle est incarnée par le clan Duterte qui s'oppose à ses rivaux de Marcos et associés et qui va, par différentes mesures politiques, essayer de récupérer des mandats, récupérer des bouts de pouvoir. Mais bon, cette opposition-là, elle n'incarne pas les aspirations de la société civile, et elle n'incarne pas vraiment une résistance, alors certes, au pouvoir en place, au pouvoir des Marcos, mais pas au système politique qui est celui qui dans lequel cette corruption est endémique et qui va causer les conséquences que connaît au sein de la société philippine. Par contre, la résistance, les contre-pouvoirs, là, on les trouve plus dans les organisations de la société civile que j'ai citées juste avant.
David Camerou.
Oui, je crois que c'est vraiment... Juliette Loche, vraiment, fait cette différence entre opposition et résistance, c'est très important dans un pays où l'État est faible, où la société civile, les ONG jouent, par exemple, dans le système éducatif, la santé, la sécurité sociale, c'est la société civile qui prend le relais. Il y a quelques députés au Congrès qui sont un peu liés à la résistance, mais c'est vraiment minoritaire. Hein. Les deux tiers sont des familles politiques, des dynasties.
On rappelle souvent que les Philippines comptent 7000 îles, mais il se trouve que moins de 150 accueillent une population, disons, permanente. Est-ce qu'on peut parler d'inégalité territoriale aussi aux Philippines, ou ça ne se joue pas là?
On parle dans les campagnes politiques, on parle d'Imperial Manila, ça fait la manie impériale. C'est un peu comme en France, on pèse contre Paris. Et c'est vrai que les différences entre, par exemple, Mindanao et autour de Manille, la Grande Manille, Luçon, les différences, effectivement, de richesse entre ces différentes régions. Et aussi des mouvements d'autonomie à Mindanao, régionalistes. Et également, les Philippines, c'est le seul pays au monde où il existe toujours une guérilla communiste. Hein.
Qu'est-ce qu'elle devient, cette guérilla communiste? Elle compte combien d'hommes et de femmes? Qu'est-ce qu'on en sait?
C'est difficile de mesurer, mais ils sont toujours présents. Il y a des incidents de temps en temps. Et ça donne aussi une excuse au gouvernement surtout dans les régions des indigènes, en fait, peuples, quelques grandes indigènes, de réprimer un peu plus donc, contre le communisme.
Juliette Louèche, vous disiez tout à l'heure que la grande manifestation du 21 septembre dernier avait été comparée par beaucoup au People Power Revolution, ou la People Power Revolution qui avait provoqué la chute du dictateur Marcos en 1986. Est-ce que cette comparaison vous paraît pertinente aujourd'hui en 2025?
Non, moi je pense qu'il faut se garder d'une comparaison trop rapide entre la manifestation du 21 septembre et la manifestation à laquelle elle voudrait faire référence, déjà parce que les revendications ne sont pas les mêmes. En 2025, les manifestants se mobilisent contre la corruption. En 86, les manifestants se mobilisent contre un régime. Ici, il n'est pas question de destituer le président, il n'est pas question de changer le régime vraiment d'un point de vue constitutionnel, même si, évidemment, en voulant lutter contre la corruption, en voulant une politique plus propre, ça contribuerait très certainement à remodeler le paysage politique philippin en profondeur, mais il n'est pas question ici de toucher à la Constitution de 87 ou à se débarrasser totalement personnalités politiques qui aujourd'hui peuplent le Parlement, le Sénat.
David Cameron.
Oui, en 86, c'était pas vraiment la révolution du peuple. Dans ces manifestants, c'était le représentant de l'Église, l'armée et la communauté, le McCarthy Business Club, en fait, les hommes d'affaires de McCarthy. Donc, il y avait des peuples, bien sûr, qui ont trouvé la manifestation, mais c'était plutôt une révolte des classes moyennes contre Marcos, à laquelle se jetait un peu la population des bidonvilles, mais c'était pas ça principalement.
Donc les manifestations du 20 septembre peuvent peut-être davantage être comparées à celles de 2001, quand en janvier 2001 des manifestations avaient conduit le président Joseph Estrada à abandonner ses fonctions. Il était accusé de corruption, il a été condamné à la prison à vie après 6 ans de procès, il a finalement été acquitté un mois après le verdict. Une grâce accordée par la présidente Gloria Macapagal Arroyo, qui sera elle-même emprisonnée en 2011-2016 pour s'être appropriée des fonds publics destinés à des programmes caritatifs. Donc il y a une sorte d'histoire qui se répète inlassablement aux Philippines. Est-ce qu'il y a eu, depuis le 21 septembre, d'autres manifestations où on s'en est tenu là, David Cameron?
Oui, on s'est tenu là parce que l'administration de Marcos a pris les devants, a créé ce comité d'intervention et on voit quand même quelques petits résultats. Mais ce qui a changé, que justement j'ai parlé du nationalisme philippin, c'est une sorte de fierté que cette Philippine de Marcos Sr., ça n'existe plus, que nous sommes un pays développé, nous sommes un pays middle power developed, un pays de moyenne, en fait, développé, donc nouvellement industrialisé, et donc ça suffit. Et maintenant, il faut qu'on se comporte comme d'autres grandes démocraties.
Alors, à voir si les responsables politiques philippins pourraient, par exemple, être contraints de rendre public leur patrimoine. Ce n'est pas une pratique inenvisageable aux Philippines, parce qu'il y a une loi qui existait, mais qui avait été limitée sous le mandat de Rodrigo Duterte. Alors, ce n'est pas le moindre de ces crimes que d'avoir supprimé cette loi. Au contraire, des crimes très graves sont aujourd'hui soumis à la Cour pénale internationale. On en parle juste après cet artiste philippin, Gloksham et Jezel Grutas.
tayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bahuran. Mataas na paderby na paligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong. Mga plato at kutsara na hindi kilala ang tubong. At ang kanin ay singkutin ang gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuan. At pag may pagkakataon ay pinag-aagawan. Kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang siya ay aking sisigawan.
Glock Cham et Jezel Groutas qui chantent ici Upuan, ça veut dire chaise en philippin, la chaise qui représente ici le confort et les privilèges des puissants. La chanson est sortie il y a déjà 15 ans, mais elle a été beaucoup entendue en septembre dernier lors de la marche du milliard de pesos. Excusez-moi, êtes-vous là à l'intérieur d'une grande maison et d'un vaste jardin, disent-ils, des murs hauts entourés, des rangées de voitures de luxe, des gardiens qui chuchotent toujours. Je vous prie de m'excuser, vous qui êtes assis, savez-vous que notre mesure de riz n'est pas pleine ? Les murs de notre maison sont faits de tôles embouties. Vous écoutez Culture Monde, le sixième épisode de notre série Inégalité, une colère universelle, aujourd'hui aux Philippines, où parmi les dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté en septembre contre la corruption, il s'en trouve nécessairement qui ont été touchés de près ou de loin par les crimes commis à l'époque de Rodrigo Duterte, qui disait vouloir lutter contre la drogue.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
My campaign against drug will not stop.
Ma campagne anti-drogue ne s'arrêtera pas avant que le dernier vendeur et le dernier baron de la drogue ne soient...
Pendant sa campagne électorale de 2016, Rodrigo Duterte avait annoncé le programme en une onomatopée qui disait tout. Lui, président, il serait heureux de tuer toutes les personnes dépendantes à la drogue aux Philippines. Il jetterait tellement de cadavres dans la baie de Manille que les poissons allaient engraisser. Ce furent ses mots. Une fois élu, Rodrigo Duterte a mis ses paroles en acte. De 2016 à 2021, ses escadrons de la mort ont tué 12 à 30 000 personnes selon les procureurs de la Cour pénale internationale de La Haye, où l'ancien président philippin a été transféré le jour même de son arrestation le 11 mars dernier à Manille, La Haye, où vous êtes. Julie Bardèche, bonjour.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseillère juridique de l'ONG Redress, qui aide les victimes de torture à obtenir justice et réparation et qui fait un travail d'information sur la procédure en cours. D'abord, pour nourrir leur enquête, est-ce que les procureurs de la CPI ont eu accès à de nombreuses informations locales, compilées, transmises par des associations locales, ce tissu associatif dont nous parlait Juliette Loesch tout à l'heure ?
Effectivement, oui, ce sont vraiment les ONG qui sont à l'origine des procédures de l'envoi à la Cour pénale internationale. Elles ont commencé à documenter ces crimes dès le début de leur commission. Et les collègues philippins m'ont raconté qu'elles ont joué un rôle multiple. Au-delà de la documentation, elles ont joué un rôle de prévention qui était également important. Elles ont permis aux communautés de s'organiser en réseau pour se prévenir les uns les autres des raids de la police et des milices. Ça a probablement sauvé pas mal de vies d'ailleurs. Mais le travail d'activisme, d'entretien des victimes, il a aussi beaucoup aidé les procédures. Et dès le commencement de la campagne de Duterte, les ONG ont documenté, accompagné les victimes pour porter plainte.
Des documents qui servent bien sûr le très riche travail des procureurs de la Cour pénale internationale sur ce dossier-là. Quand je dis très riche, c'est parce que les familles des victimes disent en attendent beaucoup de ce travail-là. Les procureurs utilisent aussi des sources ouvertes et des déclarations publiques. Et là-dessus, Rodrigo Duterte lui-même ne s'est absolument pas caché de vouloir tuer tous ceux qui étaient consommateurs de drogue à l'époque. Comment démêler, parmi tous les crimes commis, souvent dans l'intimité des maisons, ce que la justice pourra peut-être considérer comme relevant d'une guerre légitime contre les trafiquants de drogue et ce qui relève d'exécutions sommaires et totalement extrajudiciaires.
C'est assez clair. Donc, dès 1988, Duterte a été élu maire de la ville de Davao et c'est vraiment dans ce contexte qu'il a commencé sa soi-disant guerre contre la drogue. Je dis soi-disant parce que ce n'est pas vraiment une expression que les ONG philippines et les victimes aiment légitimer. Il a organisé la police en escadrons, les escadrons de la mort de Davao. Et dès sa campagne électorale, comme vous le disiez tout à l'heure, il a promis de mettre en œuvre ces mêmes méthodes au niveau national. Et à son élection en 2016, jusqu'à ce qu'il quitte la présidence en 2022, il a déployé cette campagne en formant un réseau d'escadrons et de milices privées. La campagne a ciblé essentiellement les consommateurs de drogue et les petits dealers. Ce que la campagne a complètement raté, c'est de démanteler les cartels et les puissants qui sont vraiment aux manettes du trafic de stupes. Et la manière dont ça s'est déroulé, c'est que les escadrons investissaient des quartiers, vidaient les maisons de leurs habitants, à l'exception d'une ou deux personnes. Les personnes à l'extérieur entendaient ensuite des coups de feu. La justification, c'était souvent que la victime avait tenté de résister à son interpellation. Dans notre lingot juridique, on appelle ça des exécutions extrajudiciaires. D'autres personnes étaient arrêtées, gardées en détention pendant de longues périodes, sans aucune garantie procédurale. On parle là de détention arbitraire. Il y a aussi eu quelques cas de disparitions forcées, des tortures et des violences sexuelles. Par exemple, certaines femmes ont été forcées à avoir des rapports sexuels avec les membres de la police ou des milices pour que leurs fils ou leurs époux soient relâchés.
Dans votre ONG, Julie Bardèche, vous rappelez le cas emblématique aussi d'un jeune de 17 ans, Kian Lloyd de los Santos, en août 2017. Il a été retrouvé mort dans une ruelle de Manille. Qu'est-ce qui lui était arrivé ?
Oui, il a effectivement été retrouvé mort. Il avait 17 ans. Il a été retrouvé mort avec un revolver dans la main. C'était vraiment une mise en scène des tueurs pour plaider la légitime défense. Dans leur cas, ils ont été pris par les auteurs du crime ont été pris par des caméras de sécurité, l'escortant jusqu'au lieu de sa mort. Et les témoins l'ont entendu les supplier de le laisser en vie pour qu'il puisse passer ses examens le lendemain. C'était clairement une mise en scène.
Il y a aussi toutes les victimes collatérales que vous citiez. L'histoire a été retracée d'un jeune homme que ses voisins avaient dénoncé comme consommateur de drogue pour s'en débarrasser. Donc il y a aussi eu ça. C'est ça aussi la réalité de cette, entre guillemets, lutte contre la drogue.
C'est ça aussi cette réalité. D'ailleurs, les ONG locales n'aiment pas beaucoup l'expression de guerre contre la drogue. Elles parlent plutôt de guerre contre la pauvreté. Parce qu'il y a eu notamment beaucoup de victimes dont l'identité a été méprise, mais aussi, comme vous le disiez, beaucoup de victimes collatérales. Par exemple, un jeune homme a été arrêté sur dénonciation d'un voisin avec lequel il avait eu des accords. Le voisin l'a accusé auprès des autorités de fumer de la marijuana. Il s'appelait Raymar et il avait 19 ans. Il a été forcé par des inconnus peu après à monter sur une moto. Ils l'ont emmené dans un lieu proche. Ils lui ont demandé de courir et ils l'ont abattu de deux coups de feu dans la tête. Il avait les pieds déformés par un handicap et ne pouvait vraiment pas aller bien loin. Donc il y a eu énormément de crimes dans cette veine-là. Des méprises ou alors des fausses dénonciations.
Ce sont quelques histoires particulières parmi tant d'autres, puisque les procureurs de la CPI estiment le nombre de victimes entre 12 et 30 000, ce qui fait quand même un écart considérable. Comment évaluer le nombre de personnes qui ont subi cette politique ultra-répressive de Rodrigo Duterte et pourquoi dit-on que ces chiffres sont probablement sous-estimés ?
C'est vrai que c'est difficile à établir parce qu'il y a eu de nombreux certificats de décès qui ne comportent même pas la cause réelle du décès. Quand on parle avec les activistes philippins, on comprend que certains médecins légistes exigeaient des paiements de la part des familles pour procéder à des autopsies. Ces paiements, les familles des victimes n'étaient pas en mesure de les effectuer. Et comme c'était des crimes qui étaient commis en grande majorité par les autorités elles-mêmes, ou alors par des milices qui étaient manipulées par les autorités ou organisées par les autorités, en tout cas en collaboration avec les autorités, vous imaginez bien que c'était vraiment très très difficile pour les familles des victimes de porter plainte. Donc il y a énormément de... le nombre est forcément sous-estimé.
En 2018, Julie Bardèche, Rodrigo Duterte, donc 2 ans après son élection, a sorti les Philippines du statut de Rome. Quelles conséquences ça a aujourd'hui pour l'enquête ?
À l'enquête ne peut porter du coup que sur des événements qui ont eu pendant la période où la Cour pénale internationale a compétence pour les Philippines. Ce n'est qu'en 2011 que les Philippines ont accédé au statut de Rome, qui est le traité fondateur de la Cour pénale internationale. Ils s'en sont retirés en 2018 et ça a pris un effet juste un an après, donc en 2019. Pour autant, Duterte lui est resté au pouvoir jusque 2022, donc la campagne a continué au-delà de 2019. Et du coup, ça affecte le scope temporel de l'enquête qui se concentre sur une période de temps restreinte située entre ces deux dates.
Je crois qu'on peut juger aussi les affaires d'après 2019 s'il y a une continuation d'infraction, comme vous dites dans le langage juridique, une victime qui est toujours portée disparue aujourd'hui, par exemple, ça peut entrer en ligne de compte.
Exactement. C'est ce qu'on appelle des infractions continues, des infractions qui ont commencé avant la sortie du statut de Rome et qui continuent après la sortie du statut de Rome.
Pour conclure, Julie Bardèche, aujourd'hui, est-ce que le président actuel, Ferdinand Marcos Jr., dont on dit depuis le début de cette émission qu'il essaye de montrer combien il est un démocrate qui entend le peuple, et notamment en lançant des commissions d'enquête contre la corruption, etc. Ferdinand Marcos Jr., c'est le fils, il a pour vice-présidente la fille de Rodrigo Duterte. Mmh. Est-ce qu'il coopère néanmoins avec la CPI, puisque sa vice-présidente est la fille de celui dont il a peut-être, d'ailleurs on ne sait pas, facilité l'arrestation?
En vrai, l'arrestation et le transfert à la Cour pénale internationale de Duterte indiquent une volonté de coopérer du gouvernement actuel. Après, ils auront en pratique probablement beaucoup de problèmes en interne pour l'opérationnaliser. Ça, c'est dû au fait que l'administration hérite de tout un système de commandes qui existait déjà sous Duterte. Donc, beaucoup de gens à l'intérieur qui auront tout intérêt à freiner la coopération parce que ça risquerait de les mettre eux-mêmes en cause. Après, à l'horizon 2028, comme il va y avoir des élections en 2028, et que la famille Duterte reste extrêmement puissante, comme vous me le disiez à l'instant, si le pouvoir repasse aux mains de la famille politique de Duterte, ça compliquera encore davantage la donne. Il faut aussi noter que la famille politique de Duterte a regagné la mairie de Davao, où une partie des crimes sous la compétence de la Cour pénale internationale a été commise. Donc ça complique également la participation des victimes et des témoins à l'enquête, parce que les gens ont très peur, étant donné le pouvoir politique qui reste aux mains de la famille politique de Duterte.
Oui, donc difficile pour les victimes qui voudraient pouvoir témoigner quand elles sont sur place. Bien sûr, elles savent que cette famille Duterte est encore très très puissante sur place. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julie Bardèche, conseillère juridique de l'ONG Redress, qui aide les victimes de torture à obtenir justice et réparation. Merci d'avoir été avec nous. Un tout petit mot de conclusion, David Camus, là-dessus. Si Rodrigo Duterte a été arrêté en début d'année, est-ce que c'est indirectement parce que Ferdinand Marcos Jr. ne s'est pas opposé au travail des enquêteurs de la CPI sur place?
Je crois que c'est dans l'intérêt de Marcos d'avancer la famille Duterte. Mais il faut quand même se rendre compte que la guerre contre la drogue était très populaire. C'est horrible à
dire. Ce que lui appelait la guerre contre la drogue.
Ce que lui appelait la guerre contre la drogue, selon les sondages, était approuvé à 70% de la population. Parce que les fléaux du yaba, les méthamphétamines, sont terribles dans ce pays. Ce ne justifie pas ce qui est arrivé. Mais il faut quand même comprendre ce contexte.
Merci beaucoup, David Camrou, d'avoir été avec nous, ainsi que Juliette Loesch. Je rappelle que vous êtes, Juliette Loesch, chercheuse associée au Centre Asie de l'IFRI et que vous publiez une lettre d'information sur l'Asie du Sud-Est, Durian Stories. Merci beaucoup, David Camrou, chercheur franco-australien. Vous aimez à ce qu'on le rappelle, et vous êtes membre du CERI, enseignant à Sciences Po. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Revue de presse que vous consacrez à l'Ukraine, Catherine, parce que la presse internationale se consacre beaucoup à l'Ukraine ce matin. L'Ukraine où les troupes russes continuent à avancer.
Prenant le mois dernier plus de 460 km² aux Ukrainiens, indique l'Institut américain pour l'étude de la guerre. La Russie contrôle désormais 20% du territoire ukrainien, ajoute la BBC, et Moscou souhaite que Kiev renonce notamment aux régions de Donetsk et de Lugansk voisines, connues ensemble sous le nom de Donbass, pour ensuite réfléchir à un éventuel accord de paix, rappelle la BBC. Et c'est donc pour prendre le contrôle de la région de Donetsk que la Russie pilonne et infiltre la ville clé de Pokrovsk, souligne le média Ukrainska Pravda. La moitié des bombes larguées aujourd'hui par la Russie tombent sur cette agglomération qui comptait 100 000 habitants avant la guerre. Selon le ministère russe de la Défense, cité par l'agence de presse pro-Kremlin RIA Novosti et par le journal économique russe Vedomosti, des soldats ukrainiens encerclés ont commencé à se rendre aux forces russes. Des forces spéciales de Kiev auraient même été tuées ce week-end, juste après leur atterrissage en hélicoptère. Une information démentie par l'Ukraine, précise le Kyiv Post et la BBC. Mais aujourd'hui, selon le média indépendant russe Vertka, la majeure partie de Pokrovsk est sous contrôle russe. Jusqu'à 1 millier de soldats russes seraient déployés sur place. Seulement 200 à 300 russes tempèrent le président ukrainien Volodymyr Zelensky, cité par la chaîne télévisée Rodmask. Et les forces ukrainiennes ont même réussi à bloquer l'avancée russe depuis le sud-ouest de Pokrovsk vers le nord, indique RBK Ukraina. Et derrière cette guerre des chiffres, ces tentatives de briser aussi le moral ukrainien, RBK Ukraina souligne l'importance de cette ville de Pokrovsk. C'est un nœud logistique pour le ravitaillement des troupes dans la région de Donetsk. Pokrovsk est situé à la croisée de plusieurs routes régionales, de lignes ferroviaires, précise la BBC, et sa prise par l'armée russe lui ouvrirait la voie vers l'ouest, où les positions ukrainiennes sont moins fortifiées. Il y a des immeubles, des quartiers et des rues où il est presque impossible de se promener sans se faire tirer dessus, décrit un opérateur de drones ukrainien, rapporte Vertska. Des zones basculent alors tantôt côté russe avant d'être reprises par l'armée ukrainienne, confirme la Deutsche Welle. La situation la plus difficile au front demeure la ville de Pokrovsk. L'armée russe y a mené près de 70 attaques en une seule journée, indique la Deutsche Welle. Et même si l'état-major ukrainien répète que ses troupes russes ne font qu'entrer dans des quartiers de la ville par petits groupes, sans réussir à y prendre pied, on craint aujourd'hui que la chute de Pokrovsk n'ouvre la voie aux Russes dans le Donbass, que le Kremlin cherche à occuper totalement, rappelle la Deutsche Welle, faisant courir un risque d'encerclement également à Mirnograd, la ville voisine de Pokrovsk. Et ce qui est sûr pour RBK Ukraina, c'est que l'épicentre des combats, cet automne comme cet hiver, restera la région de Donetsk, que les Russes cherchent à contrôler entièrement, peut-être d'ici fin février et le 4e anniversaire de leur invasion à grande échelle en Ukraine.
La guerre qui modifie durablement la géographie de l'Ukraine.
Comme l'illustre le conte de deux villes en Ukraine que nous propose The Economist pour paraphraser le roman de Dickens, contraste entre Kharkiv à l'est et Lviv à l'ouest. Kharkiv, jadis centre industriel majeur et deuxième ville d'Ukraine, se situe à seulement 40 km de la frontière russe et comptait 1 600 000 habitants avant le début de la guerre en 2022. Kharkiv aurait depuis perdu 300 000 à 400 000 habitants à cause des attaques incessantes de drones et de missiles russes. Cet ancien grand centre universitaire ukrainien aussi a vu la plupart de ses cours passer en ligne. Près de 130 000 étudiants, la moitié des effectifs ont quitté la ville, fuite aussi des cerveaux travaillant dans l'informatique, de la classe moyenne de Kharkiv qui a fui vers des régions plus sûres à l'ouest, comme à Lviv, qui voit donc affluer des Ukrainiens, des entreprises et des investissements, ajoute The Economist. Cette grande ville est située, elle, à 70 km de la Pologne, pays prospère et porte d'entrée des marchés de l'Union européenne. Lviv a atteint le million d'habitants depuis 2022, grâce à l'arrivée notamment de 150 000 personnes en provenance de Kharkiv et d'autres régions de l'est de l'Ukraine. Un important parc industriel a ouvert ses portes en périphérie de la ville, ainsi qu'une université. L'Union européenne prévoit de faire de Lviv un nœud ferroviaire en modernisant les liaisons avec la Pologne et la Roumanie. Et pour le maire de Lviv, la situation économique est meilleure qu'avant l'invasion russe. À l'est du pays, crainte en revanche de se transformer en zone industrielle désaffectée, rapporte The Economist, constamment menacée par la guerre. Ivan Movchan, qui dirige une entreprise de balances industrielles, a vu son usine détruite à Kharkiv. L'entreprise a délocalisé sa production vers le centre de l'Ukraine et son patron voudrait bien revenir à Kharkiv, explique-t-il à The Economist. Mais ce sera difficile, dit-il. Ivan Movchan craint que Kharkiv ne soit plus que l'ombre d'elle-même, un peu comme Détroit aux États-Unis.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.